Bonjour à tous, j'espère que vous entendez bien partout, même au fond, oui, ok. Bien écoutez, merci d'être venus aussi nombreux, nombreuses, pour ce débat sur le climat. Je me présente en un mot, Laurent Grelle-Samer, je représente le journal Le 1. Je crois que vous en avez reçu non pas un exemplaire que complet, mais la page dédiée à la Foire du Livre. Et bon, écoutez, je ne peux que vous inciter à le lire, le parcourir et surtout le déplier. C'est un objet assez original, une sorte d'origami ludique. Nous sommes en pleine COP26, Glasgow, en Écosse, grand débat sur le climat. Et pour notre bonheur, nous avons ici trois auteurs, deux romanciers et un immense explorateur qui viennent nous en parler. Alors, je dirais d'un mot qu'on va se diriger vers le Grand Nord, vers les banquises qui se craquellent, les icebergs qui vêlent et la croûte terrestre qui bouge. C'est trois livres, et je dirais que c'est trois livres d'aventure dans un genre chacun très, très particulier, nous le verrons. Et en tout cas, c'est des aventures qui emmènent très loin et très fort. Je ne peux que vous recommander de les lire. Et comme vous le savez, vous pouvez, à la fin de cette rencontre en forme de débat, vous pouvez vous rendre sur les stands pour acheter, faire dédicacer ces deux romans et ce livre de découverte qui valent vraiment le détour, comme on dit dans les guides touristiques. On le dit trop souvent, mais pour le coup, je vous le dis vraiment comme je le pense, comme je les ai lus, avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, un mot sur chacun des auteurs très rapide, et puis après, on discutera. Jean-Louis et Étienne, j'allais dire, on ne le présente plus, mais il vaut mieux quand même le présenter. Ouvrier tourneur fraiseur très jeune avec un CAP, puis il reprend des études, il devient médecin, puis l'explorateur qu'on connaît, qu'on a appris à connaître à travers les grands médias, c'est la première course solitaire vers le pôle Nord en 1986, une course qu'on a tous en mémoire encore. Et puis ce sont des livres et encore des explorations et un projet magnifique qui s'ouvre devant lui et devant nous, parce que j'espère que nous y assisterons en différé. Et Jean-Louis Étienne nous en parlera. Thomas Reverdy, c'est un romancier, un auteur qui a déjà été, j'allais dire, primé à plusieurs reprises. En 2018, pour son avant-dernier roman, le prix Interallié, si j'ai bonne mémoire. Et c'est un auteur, là, dans Climax, paru chez Flammarion, qui conjugue tout à la fois des légendes scandinaves, l'épopée d'une bande d'adolescents qu'on voit grandir, même si c'est un groupe d'adolescents amis qui s'est distendu, et puis une actualité climatologique très rude, comme nous le verrons. Alors, enfin, Wilfried Sondé, qui lui a fait, il vit en France, il est revenu en France, mais il a fait un long détour par Berlin, 25 ans. Ce n'est pas rien, c'est plus qu'une parenthèse. Il vit maintenant à Lyon et il publie Femmes du ciel et des tempêtes chez Actes Sud. Et c'est un roman très, très prenant, difficile à résumer d'un mot en quelques phrases, mais on y reviendra. Qui raconte l'équipée d'une équipe de scientifiques pluridisciplinaires. Il y a un zoologue, il y a une médecin légiste et puis un anthropologue, Laurent, Cosima et Silver. Et ces trois-là nous entraînent en Sibérie pour lutter contre les méchants, si j'ose dire, notamment un entrepreneur russe mafieux sur les bords. Et finalement, entre les méchants, les bons, c'est beaucoup plus subtil que cela, bien sûr, on est entraîné dans un thriller entre la fable, le conte et le roman d'aventure. Alors, je vais commencer avec vous, mais vous n'hésitez pas à vous interpeller les uns les autres. Je veux pas que ce soit un débat figé. Je voulais d'abord vous demander, vous décrivez la toundra sibérienne de manière magnifique Et je voulais savoir si c'était une Sibérie fantasmée ou si, en fait, vous êtes allé sur place enquêter.
Alors d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Ça me fait très plaisir de retrouver Thomas sur un plateau et bien sûr Jean-Louis, qui est une légende. En plus, j'ai eu la chance de monter sur le Tara au Chili, là, donc ça me fait vraiment très très plaisir d'être là. Alors oui, je suis allé en Sibérie en 2010, j'ai fait le Transsibérien, mais je ne suis pas monté au-delà du cercle arctique, comme c'est le cas dans le livre. Et pour décrire les paysages de la toundra, je me suis documenté, bien sûr, et je me suis amusé en fait à faire découvrir ces paysages-là par le biais de personnages qui le découvrent en même temps que la lectrice, que le lecteur. Donc ce sont des descriptions qui sont plus de l'ordre du ressenti, de l'impression, du sentiment, de la sensation. Voilà. D'inscrire des paysages dans un paysage qu'ils ne connaissent pas et de les faire réagir. Et ce faisant, on les découvre.
Et alors, d'où vient votre préoccupation pour le climat? Parce que, à l'évidence, c'est une préoccupation, l'environnement, la dégradation de l'environnement. Vous l'avez greffé sur cette expédition scientifique dans la péninsule de Yamal. Pourquoi et comment ça vous est venu?
En fait, l'un des buts de ce livre, dans le fond, c'était d'introduire la spiritualité dans le débat qui concerne nos rapports avec l'environnement. C'est pour ça que le livre tourne autour du chaman. C'est un chaman nénètse, donc l'un des peuples du nord de la Sibérie. Et c'est ce chaman-là qui est au cœur donc du propos du livre. C'est lui qui s'oppose, enfin c'est son point de vue qui s'oppose fondamentalement au point de vue de l'industriel, qui n'est pas forcément méchant, il a juste une autre manière d'envisager la nature. Il l'envisage comme un ensemble de ressources à exploiter pour faire de l'argent. Voilà. Le chaman, lui, a une approche beaucoup plus mesurée, où il ne se considère pas comme un observateur de la nature, et encore moins comme un exploiteur de la nature, mais comme faisant partie intégrante du grand mystère.
Voilà. Alors, comme c'est un roman très subtil, en plus, ce chaman est un chaman, mais qui à l'origine était inscrit au Parti communiste, qui a fait des études assez poussées à Moscou. Donc, en réalité, c'est un homo soviéticus, d'une certaine manière, qui a fait un parcours classique et qui, sur le tard, revient aux origines familiales, aux origines de son pays.
Oui, voilà, c'est un chaman qui, dans son enfance, dans sa jeunesse, a été séduit par le discours soviétique. Ce discours-là, dans sa pratique, surtout dans la guerre en Afghanistan, l'a déçu. Il a découvert le libéralisme sauvage de l'après-période soviétique en Russie, qu'il a déçu aussi. Et il décide de s'éloigner, de s'exiler dans une contrée sauvage. Mais entre guillemets, alors il y a deux choses qui le rattrapent. Il y a la civilisation, entre guillemets, parce qu'on y a trouvé du gaz. Donc les industriels sont très intéressés à y construire une usine de gaz. Mais aussi, il y découvre une sépulture préhistorique très particulière, parce qu'il s'agit d'une femme très bien conservée dans le permafrost. Une femme qui a vécu en Sibérie il y a 8000 ans, et cette femme a la peau noire. Donc c'est pas une découverte si farfelue que ça, parce qu'on a vraiment découvert au Danemark en 2019 de l'ADN d'une femme qui avait vécu au Danemark il y a 7000 ans, et l'ADN qui ment pas ou peu dit qu'elle avait la peau noire, les yeux bleus et les cheveux bouclés. Donc voilà, c'est mettre en scène la confrontation fondamentale entre le chaman qui considère que cette terre du Nord nous ramène un patrimoine de l'humanité qui est très précieux, en opposition avec, encore une fois, les industriels qui n'y voient qu'un moyen de s'enrichir.
Voilà. Et je le redis, mais c'est un point de vue très nuancé, avec des personnages qui sont nuancés, complexes. Et je vais lire quelques lignes de votre livre, parce que à travers ces lignes, on voit que, en même temps, vous ne cachez rien. Alors, c'est un passage où vous évoquez les trois des personnages, cette fameuse équipe scientifique qui arrive en Sibérie, justement pour examiner cette découverte qu'a faite le chaman, cette fameuse reine d'Afrique. Donc, on parle bien de Laurent, Cosima et Silver, vos personnages occidentaux. Tous les trois remarquèrent les amas de détritus, les centaines de sacs plastiques multicolores et les carcasses d'engins civils et militaires qui jonchaient les faubourgs et les bords de la route. Cette vision déçut surtout Silver. Il venait de traverser l'hémisphère nord, de l'équateur au cercle polaire, pour finalement constater le même spectacle de désolation qu'en Afrique. Entre le zèle, les attitudes racistes des douaniers, qui l'avaient révolté, et le désastre écologique au sortir de la ville, Cosima, elle, déchantait aussi. Le voyage dont elle avait rêvé ne lui offrait pour l'instant rien de féerique. Alors, la féerie va arriver, et la catastrophe aussi, mais par exemple, ce spectacle de désolation, en réalité, dans des terres que l'on imagine immaculées, vous l'avez vous-même vécu ?
Enfin, j'ai la chance de voyager beaucoup. J'étais encore en mai au Chili. La désolation, disons que oui, sous la forme de déchets, les difficultés qu'on a à gérer. Enfin, quand je dis nous, c'est l'humanité, parce qu'on soit en Angola, au-delà du cercle polaire, au Chili, en France, c'est un peu la même chose. Nous fonctionnons sur des manières de faire où on produit, par exemple, beaucoup de déchets qu'on n'arrive plus à gérer. Voilà. Il n'y a qu'à prendre l'avion. J'étais encore dans l'avion hier soir. C'est incroyable le nombre de produits qui arrivent sur les plateaux et qui repartent directement en poubelle. On pourrait dire quand même qu'intelligemment, on ne devrait pas les produire. Parce que c'est pour les jeter. Voilà. Donc, il y a des pratiques du quotidien qu'on n'interroge plus, même si elles sont complètement délétères, sans être militant, hein, c'est pas le but. Voilà. Alors, presque des questions de bon sens. Oui.
Et Wilfried Sondé, est-ce qu'il est plus facile de décrire l'enlaidissement du monde, comme vous le faites, comme on vient de le voir, mais aussi la beauté du monde, parce que vous décrivez très largement cette péninsule de Yamal? Quel est l'exercice le plus facile pour un romancier?
Le plus agréable, c'est de décrire la beauté du monde. Voilà, c'est pas un livre sinistre. Hein. Voilà, et c'est plus agréable de décrire la beauté du monde, mais je pense parce que je me considère comme un optimiste, mais pas un optimiste béat. Donc, c'est important de passer par tout ce qui est laid pour apprécier d'autant plus ce qui nous amène à produire du beau et à cultiver l'espoir.
Alors, c'est peut-être une de mes dernières questions, mais pour ce qui concerne ce roman, mais finalement, effectivement, il est assez sombre, même si on plonge dedans avec un grand plaisir. Et à la fin, vous ouvrez des fenêtres, vous écrivez même « D'autres mondes sont possibles ». Alors, vous y avez déjà partiellement répondu, mais est-ce que ça veut dire que vous êtes optimiste, finalement ?
Oui, je suis fondamentalement optimiste.
Parce que ça s'appelle « Alerte sur le climat ». Est-ce que donc,
Oui, mais enfin, je pense que, comment dire, dès l'instant où on arrive à considérer que nous n'avons pas encore exploré tous les possibles, l'optimisme est envisageable. Je pense que si on est pessimiste, c'est qu'on considère qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il n'y a plus à penser. Or, je pense que le monde est à repenser. Et c'est ce qui me rend optimiste. Il faut que nous acceptions de secouer nos certitudes. Et c'est aussi ce qu'apporte cette sépulture complètement improbable. Voilà,
On y croit tout à fait.
Mais c'est alors, on sait maintenant, et c'est très nouveau, que le phénotype majoritaire des Européens jusqu'à 6000 ou 7000 ans, c'était celui-là. Une peau sombre, les yeux clairs et les cheveux bouclés. Et c'est juste intéressant parce que ça secoue nos certitudes. Voilà.
Thomas Reverdy, vous voulez réagir sur le livre de Wilfried Sondé?
Oui, pourquoi pas. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques temps déjà avec beaucoup de plaisir. Et puis, on a eu l'occasion déjà de se rencontrer tous les deux. Et on partage, à vrai dire, les livres sont pas du tout, écrits de la même manière ou tout ça. Mais il y a beaucoup de territoires communs et même dans l'imaginaire, beaucoup de la place des Russes là qui sont à la frontière des affaires et de la mafia et ce genre de choses et qui fournissent un bon méchant de roman, quoi. Et puis ces considérations, évidemment, c'est placé quasiment. Enfin, Yamal, c'est pas le Cap Nord, mais en gros, c'est quand même le même genre de paysage dans l'Arctique, là, à l'extrême nord de notre continent. Et il y a plein de points de convergence. Alors notamment cette idée, puisque donc moi l'action se situe au nord de la Norvège et il y a des villages qui pourraient fournir un exemple en fait de ce que j'ai imaginé comme situation, avec une banquise qui fond de plus en plus tôt dans l'année et qui permet d'envisager l'exploitation pétrolière. On estime à 30% des réserves mondiales de gaz et d'huile, ce qu'il y a sous l'océan Arctique, qui permettent également de faire voyager des bateaux le long de cette Sibérie où tu situes ton action. Et là, on retrouve aussi quelque chose, je pense, qui est dans les deux romans, dans le fond des romans, qui est quand même une espèce de critique de fond de ce capitalisme qui se met à aggraver les choses. C'est-à-dire que moi, j'étais parti là-dedans en... Voilà, je continue. Hein.
En fait, c'est vrai qu'il y a un vrai parallèle entre vos deux livres, ne serait-ce quasiment que géographique. On reste dans le Grand Nord. Et puis, vous nous entraînez en Norvège, plus précisément, sur fond de légendes scandinaves. Mais vous nous entraînez dans un lieu très localisé, un fjord, un glacier, une plateforme pétrolière offshore... Et puis tout ça se termine par une sorte d'apocalypse locale, mais une catastrophe écologique quand même majeure. Votre roman s'appelle Climax. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Deux choses, enfin au moins deux choses, disons. Le climax est un mot qui a un sens en écologie, en environnement, puisque ça désigne le retour à l'équilibre d'un milieu après une série de régressions écologiques. Retour à l'équilibre qui est parfois compliqué à imaginer quand le déséquilibre a été provoqué par l'homme, parce que du coup c'est une source exogène en quelque sorte au milieu qui provoque le déséquilibre et rien ne dit que ça pourra revenir à l'équilibre. Le plus récent rapport du GIEC nous informe à ce sujet tristement à propos des glaciers continentaux et évidemment des Inland 6 ou de l'Antarctique en nous disant que certains dégâts sont d'ores et déjà irrémédiables. Donc il y avait déjà ce sens en écologie. Évidemment, moi, le sens que je connaissais avant d'entreprendre ce roman, qui était aussi une forme de voyage imaginaire, là, c'était le sens en narration. En narration, le climax désigne le point culminant d'un récit. Et comme le roman est construit comme un roman catastrophe, c'est-à-dire que dès le début, il y a un accident sur cette plateforme offshore et on annonce en fait que cet accident est peut-être le signe annonciateur d'une plus grande catastrophe à venir. Et on prend des personnages qui se retrouvent dans ce petit village de leur enfance au moment où le destin du village pourrait bien basculer. Du coup, c'est construit tout simplement comme ça, j'ai envie de dire. Et puis enfin, on entend Climat, effectivement, dans Climax. Et puis, j'ajouterais que c'est pas un titre très beau. Enfin, je veux dire, c'est pas tiré d'une chanson en alexandrin ou je ne sais quoi. Peut-être que, puisque le but est aussi d'alerter à propos de ces enjeux environnementaux, c'était bien de faire entendre un titre un peu laid.
Oui, enfin, il est pas si laid que ça. Et vous précisez, du reste, le climax, le moment où tout bascule. Et c'est vrai qu'on est dans un roman où tout bascule et où l'alerte, en plus, sur le climat est décisive. Je lis quelques lignes pris dans un de ces chapitres qui sont des chapitres non pas de romanciers, mais d'observateurs attentifs et engagés. Vous en avez deux, si j'ai bonne mémoire, qui s'appellent Climax 1 et Climax 2, parce que c'est une structure intéressante sur le plan du roman. Dans ce roman, vous n'êtes pas seulement romancier, vous me le direz, vous nous le direz tout à l'heure. Il n'y a pas que la banquise. Les glaciers, que ce soit les glaciers de montagne ou l'Inlandsis, ce glacier gigantesque qui recouvre 80% de la surface du Groenland, les glaciers partout sur la planète fondent et coulent et se cassent et ruissellent dans la mer. C'est la montée des eaux, le déluge. Bientôt, des villes disparaîtront comme des Atlantides modernes. La salinité diminue dans l'océan Arctique et c'est tout l'équilibre de l'Atlantique et de ses courants. C'est la planète entière en tant qu'écosystème qui s'en trouve menacée. Alors ça, je trouve que ça fait partie de ces passages et on retrouvera cette tonalité, on la trouve chez Wilfried Sondé, mais on la retrouve aussi chez Jean-Louis Etienne qui va nous en parler. Mais ça fait partie de ces passages où je voulais vous demander si vous aviez pris un intérêt particulier dans ces chapitres, où vous nous donnez beaucoup d'informations précises, recoupées sur la dégradation écologique de notre environnement.
Oui, bien sûr. Oui. Ce sont des chapitres qui sont écrits à l'intérieur du roman par un des personnages, qui est un personnage de glaciologue qui tient le compte dans ses, qui est un petit peu contemplatif, qui passe son temps sur le glacier là à l'arrière du fjord et
Anders.
Et qui passe son temps à noter à la fois la dégradation de son environnement, les espèces qui s'en trouvent menacées, mais aussi, en quelque sorte, à essayer de conserver dans ses carnets, on en parlait tout à l'heure avec Wilfried aussi, des petits éclats de la beauté du monde qui restent encore là. Voilà. Et donc c'est des passages qui sont à la fois informatifs et puis parfois écrits de façon plus personnelle et touchante de la part de ce scientifique. Ça me paraissait important parce que d'abord moi j'y suis allé un petit peu innocemment dans le nord, enfin d'abord j'y suis pas allé, j'y suis allé en écrivant je veux dire, mais j'y suis allé un peu innocemment, c'est-à-dire que j'étais pas tout à fait au fait de toutes ces problématiques environnementales et je les ai découvertes en travaillant. Cette découverte a été assez frappante pour que ça suscite chez moi un sentiment de responsabilité de la fiction. C'est-à-dire que je me suis dit que après tout, le roman étant un genre très protéiforme qui peut se permettre d'absorber toutes sortes de choses. On peut, si on a un personnage poète, on peut écrire des poèmes. Ça choque pas du tout le lecteur de roman, etc., etc. Je me suis dit qu'après tout, le savoir que nous dispensent les scientifiques à longueur de rapports, etc., ce savoir pouvait être lui aussi une matière romanesque et que ce serait justice en quelque sorte à ce paysage de le rendre aussi dans sa dimension scientifique et de parler par exemple de cette petite crevette copépode dont vous tirez ces lignes là, chapitre qui lui est consacré et qui est un espèce de plancton que moi évidemment j'ignorais complètement, mais qui est à la base de tout le système trophique arctique et dont la présence en Arctique est de plus en plus menacée et avec des conséquences évidemment dramatiques. Ce qui m'intéressait aussi, et c'était un peu votre première question, j'y reviens, c'est que je découvrais à travers Climax, le sens en narration, le sens en écologie, machin, je découvrais aussi que le lien, en quelque sorte, entre l'écriture d'un roman, entre ce travail qui est à la fois un travail d'écriture, de phrase, mais aussi de construction, hein, c'est le propre roman, entre ce travail d'écriture et de construction et ce qu'est un écosystème, c'est-à-dire un milieu dans lequel tous les éléments sont interdépendants les uns des autres, et dès qu'on en enlève un, hop, tout s'écroule.
D'accord. Mais alors, cette cohabitation entre le romancier et puis l'observateur, presque le chercheur, puisque vous avez enquêté, finalement, lequel l'emporte à la fin ?
Pour moi, c'est le romancier. Enfin, je veux dire, oui, oui, bien sûr. C'est pas comment dire. Quand on fait de la fiction, bon, on a une espèce de responsabilité. Je l'ai dit tout à l'heure vis-à-vis du réel. Vous commencez une phrase en disant la plateforme se balançait à. Et puis zut, moi je sais pas comment s'est fait une plateforme pétrolière et s'il y a combien de mètres au-dessus de l'eau. Et puis d'ailleurs, est-ce que ça se balance? Est-ce que ça flotte? Est-ce que c'est attaché? Où est le plancher continental à cet endroit-là? Et en fait, je suis obligé de me taper 8 bouquins de 400 pages publiés chez Erol par des pétroliers pour essayer de comprendre comment ça marche pour pouvoir terminer ma phrase. Voilà, parce que c'est ça en fait écrire. Et donc évidemment, ce travail m'a passionné. Et ça fait partie pour moi du plaisir de l'écriture d'un roman. Je le fais aussi par curiosité, en quelque sorte. Et à chaque fois, pour moi, c'est l'occasion de découvrir des choses. Et je pense que ça fait partie du plaisir de lire aussi, d'apprendre des choses. Mais bien sûr, je suis défini incurablement romancier. C'est-à-dire que j'étais parti aussi dans le Nord avec cette idée de roman d'aventure. En me disant, ben voilà, c'est alors là, Jean-Louis Etienne m'en offre un exemple vivant, en quelque sorte, de d'aventurier moderne, d'aventure encore possible. Mais dans le fond, ce que je découvrais en me documentant, c'était un peu décevant. C'est-à-dire que je découvrais plutôt un territoire de cynisme mercantile que réellement d'aventure. Et l'aventure, en fait, je la place finalement dans les vieilles légendes, c'est-à-dire dans le passé de mes personnages, dans leur adolescence, où ils jouaient à se raconter.
Dans les jeux vidéo, jeux de rôle.
Dans les jeux de rôle, où ils jouaient à se raconter autour d'une table des légendes des personnages scandinaves, Siegfried, etc. Et là, il y a encore une aventure possible dans l'imagination, enfin grâce à l'imagination, etc.
Alors, je voulais vous demander peut-être pour terminer ce court passage, est-ce que finalement, dans ce roman, le personnage principal ne serait pas le glacier? Ce glacier qui va finir, bon, on va pas tout spoiler pour les futurs lecteurs.
Si, on peut spoiler, mais... ça me dérange pas du tout de spoiler, puisque dès les premières pages, voilà, je l'ai dit, il y a un accident et on annonce que ça va être une catastrophe à venir.
D'ailleurs, il faudrait préciser, vous parlez tantôt de la fin du monde, tantôt de la fin d'un monde.
Ouais.
Alors,
ouais.
Qu'est-ce que vous choisissez?
Pour ceux qui l'habitent, la fin d'un monde ressemble toujours à la fin du monde. Et en fait, c'est bien un des problèmes. Et quand on parle de toutes ces, voilà, je sais plus comment s'appelle la conférence, mais des dangers climatiques, quoi, alerte sur le climat. Dans le fond, on est toujours un peu tenté d'avoir un discours catastrophiste, etc. Moi, je suis assez d'accord, et je pense qu'on en tombera d'accord tous les trois avec cet optimisme que professait tout à l'heure Wilfried, c'est-à-dire qu'on peut être assez pessimiste sur l'état du climat, sur le ce qu'on fait de la planète, machin, mais tout en restant optimiste sur les gens. Et d'ailleurs, j'en parlais il y a quelques semaines avec un autre grand monsieur que j'étais très heureux de rencontrer, qui s'appelle Jean Jouzel, et qui a coutume de dire, en fait, un des problèmes de cette catastrophe annoncée, c'est justement qu'on va y survivre. Faut arrêter de dire qu'on va. En fait, on va pas tous mourir. On va la traverser, cette catastrophe. Sauf que ça va nous faire habiter dans un monde un peu plus inhospitalier. Voilà. Avec de grandes disparités, avec des régions qui deviennent compliquées à habiter, avec des mouvements de population, des guerres, etc., etc. Le Soudan, c'est déjà une guerre de l'eau. La Syrie, c'est déjà des années de sécheresse et des gens qui quittent la campagne, et du coup Daesh s'installe à la campagne. Enfin, je veux dire, en fait, voilà. Et donc, faut arrêter de dire que tout s'effondre et tout ça. En fait, c'est pas vrai. C'est complètement déprimant en plus comme discours. Et en plus, c'est profondément malhonnête parce que les solutions envisagées, quand on en est à faire le compte de l'effondrement, sont toujours des solutions micro-communautaires, centrées sur soi, sur un tout petit groupe, etc. Et soyons clairs, tout à fait inapplicable au Mali. Hein. Donc on peut pas balancer à la poubelle tous les Maliens en disant eh ben ils avaient qu'à habiter dans la Drôme provençale. Hein. Et donc il va bien falloir quand même qu'on prenne en charge toutes ces problématiques, que des scientifiques les prennent en charge, portés par des gens comme vous qui portent cette parole et qui nous sensibilisent à tous ces problèmes. Et voilà, et j'imagine qu'il y a aujourd'hui des enfants qui préparent des études de chimie ou de physique ou de biologie qui vont contribuer également à nous sortir de toutes ces ornières.
Ouais. Alors justement, Thomas Reverdy, je pense que c'est très fort ce que vous venez de dire. Jean-Louis Étienne en a déjà tiré la conclusion, puisque lui, il ne rêve que de s'enfuir dans l'océan austral. Donc je vous ai présenté tout à l'heure rapidement, mais dans ce livre que vous venez de publier chez Paulsen, Explorateur d'océan, je trouve que c'est probablement l'un de vos livres les plus prenants, parce que vous reprenez toutes ces explorations et vous ne faites pas abstraction de votre goût de la montagne aussi, mais à partir des années 70, dans les années 90, dans les années 2000, vous racontez non seulement vos propres découvertes et vos de scientifiques, de vulgarisateurs, de médecins et d'explorateurs, mais vous rendez aussi hommage à de grandes figures, hein, comme Magellan, comme Nansen et quelques autres. Et puis vous racontez la défense que vous avez prise avec d'autres, des grands dauphins, de l'otarie de Kerguelen et des baleines. Donc on vous lit avec passion. Et puis tout à coup, à la fin, dans les 50 dernières pages, on découvre que c'est pas fini tout ça, que vous allez vous engager encore dans une exploration complètement dingue, que vous allez partir en 2013 dans cet océan austral qui borde le pôle sud, l'Antarctique. J'espère que je ne commets pas d'erreur, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste. Et j'aimerais d'abord que vous nous disiez en quoi cet océan austral est encore inconnu, ce que j'ignorais complètement.
Bonjour.
Il faut rapprocher le micro.
Oui. J'ai pris froid. C'est con, hein, pour un mec qui va au pôle Nord. J'ai pris froid à Brive. Ça commence bien. Ouais. L'océan austral, donc. L'océan austral, c'est l'océan qui est autour de l'Antarctique. On a parlé de l'Arctique, hein, votre travail en Arctique. Là, on change d'hémisphère, on va en Antarctique. C'est un immense continent, un continent qui est recouvert de glace à 98%. Vous imaginez une surface de 28 France, un puzzle parfaitement bien fait, 28 France, et vous recouvrez le tout de 2,5 km d'épaisseur moyenne de glace. Vous voyez la taille du glaçon. 80% ou peut-être 75%, je ne sais pas, d'eau douce de la planète est gelée là-haut. Ça, c'est le continent Antarctique. Et tout autour, il y a un océan qu'on appelle l'océan austral, et vous avez l'hémisphère boréal, les aurores boréales, et l'hémisphère austral. Donc cet océan, on l'appelle l'océan austral, il fait le tour de l'Antarctique. Et il est entraîné par des vents légendaires, les fameux 40e, 50e hurlants, ce sont des vents d'ouest qui soufflent en permanence et qui entraînent tout autour ce courant de surface qu'on appelle le courant circumpolaire. Donc c'est loin, c'est fréquenté rarement, hein. C'est coûteux, les missions sont coûteuses, elles se font essentiellement en période d'été. Et toutes les publications sur cet océan se terminent par la même phrase, grossièrement. On a besoin de mesures in situ, de longue durée, sur cet océan qui est mal exploité, parce qu'en fait, il est rarement exploité. La France a un bateau qui s'appelle le Marion Dufresne, qui fait de la Réunion à Kerguelen, donc il y a des scientifiques français qui travaillent là, sur cette partie. Vous avez les Australiens au sud, et il n'y a plus grand-chose, et ça se fait essentiellement l'été. Donc la question que je me suis posée, c'était quel type de vaisseau permet de séjourner sur un océan de tempête, parce que ça souffle, hein, ça bouge, hein, dans des bonnes conditions de sécurité et de confort.
Et rester longtemps, en plus.
Ah oui, il faut être autonome. Et rester longtemps.
Combien de temps? Un an, deux ans, trois ans?
Je vais vous dire. Parce que je ne sais pas. Non, je sais. Donc ce vaisseau, il est vertical. voyez ? L'idée, c'est d'échapper à la surface, c'est la zone de conflit, la surface, là où le vent et la mer se rencontrent. Et donc, pour échapper à la zone de conflit, il faut avoir un vaisseau vertical qui va descendre profond, comme ce micro-là. Vous voyez, le niveau de la mer est là. On habite dans cette cahute, là, dans le micro. Et 80 mètres sous l'eau sont pris dans des eaux profondes, donc stables, tu vois. Voilà. Et donc, ce grand bouchon de 100 mètres de haut, de 1000 tonnes, va être entraîné par le courant. Alors, la vitesse, donc je vais répondre à votre question quand même. Combien de temps, ça dépend de la vitesse. Vous voyez. Et donc, on nous a demandé, je dis « on », les scientifiques nous ont demandé de faire deux tours. Bon. Un tour, ça fait 22 000 kilomètres. Pas mal. Ils nous ont demandé de faire deux tours. On va faire pour la première fois des mesures aux quatre saisons. On va séjourner aux quatre saisons et sous toutes les longitudes. Et normalement, ça devrait durer 3 ans. Mais on vous le dira quand on reviendra. Parce qu'en fait, ce n'est pas un courant homogène, vous voyez. Il y a ce qu'on appelle des gyres. Quand maintenant, les satellites nous donnent des informations très précises sur les océans, et on appelle des gyres, vous voyez, ces tourbillons. Et en fait, ces tourbillons sont une sorte de siphon où il y a de l'échange entre la profondeur d'échange de chaleur et d'eau froide. Tout autour, il y a des remontées, si vous voulez, par ce système de siphonnage de zones riches où il y a à manger. Et on s'en aperçoit quand les chercheurs qui sont à Kerguelen mettent des balises Argos sur les éléphants de mer, les regardent partir s'alimenter très loin. Et on se rend compte, quand ils rencontrent un gyre, ils font le tour comme ça à la périphérie parce qu'il y a à bouffer. Vous voyez, il y a des, voilà. Et donc, on peut, à un moment donné, être pris dans un gyre. Ça ne fait pas tourner la tête, ça va doucement. Hein. Mais on peut ne pas aller en ligne droite tout le temps. Donc, on a compté 3 ans.
Mais alors, cet engin que vous appelez le PolarPod, et sur lequel vous travaillez depuis de très longues années...
10 ans.
10 ans. Décrivez-le-nous un petit peu plus, parce que vous n'allez pas être tout seul, vous allez être entouré de quelques personnes. Comment ça va se passer? Comment vous allez vous alimenter? Comment vous allez communiquer?
Donc, il y aura 8 personnes qui vont habiter dans le module. Il y a 3 marins... Il y a 3 ou 4 ingénieurs, techniciens. On va fonctionner en fait comme la station spatiale internationale, vous voyez. Où il y a beaucoup de capteurs et peu de personnes. Là, ce n'est pas une campagne océanographique traditionnelle. Vous voyez, où le chercheur part avec son matos, pendant 3 semaines ou 1 mois, il fait des mesures, et puis il revient au labo, et pendant 1 an, 2 ans, il fait une publication. Là, c'est différent. C'est une plateforme d'acquisition de données. Vous voyez, on acquiert de la donnée et elle sera envoyée en temps réel, pratiquement, dans un centre, dans un collectif, un nuage. Et elles seront à la disposition de tous les chercheurs qui pourront travailler dessus. Voilà comment ça va se passer. Les principales attentes, hein, c'est cet immense océan et le principal puits de carbone océanique de la planète. Parce que le CO2, hein, dont on parle tout le temps, qui est émis en excès, se dissout essentiellement dans les eaux froides. Plus l'eau est froide, plus le CO2 se dissout. Donc, tu vois, c'est un puits de carbone. À lui seul, cet océan austral absorberait, j'en parle au conditionnel, absorberait la moitié du gaz carbonique qui est absorbé par tous les océans du monde. Donc ça, c'est une mesure précieuse que l'on va faire.
Vous dites que l'océan est le grand régulateur, en
oui,
réalité,
du climat.
Du climat.
Mais je vais y revenir. Et donc, le PolarPod, il a d'une grande stabilité verticale et va permettre cette mesure précise d'échange atmosphère-océan parce qu'il est stable verticalement. Ça, c'est le 1. Et deuxièmement, on l'a évoqué, c'est un bateau qui n'a pas de moteur, qui n'a pas de groupe électrogène. Il est autonome. Le moteur, c'est le courant. Enfin, le moteur de déplacement, c'est le courant. Et l'électricité, c'est le vent. Il y en a plein là-bas. On a 6 éoliennes de 3 kW chacune. On va être autonome en énergie, vous voyez. Et il est silencieux. Et on va mettre des micros sous l'eau, sur la structure. Et donc, on va faire un inventaire de la faune par acoustique passive. On écoute. On dit, tiens, une baleine bleue, tiens, un orque, tiens, machin, vous voyez. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Voilà. Et donc, c'est une question importante que vous m'avez posée. Il n'y a pas longtemps encore, j'assistais à une réunion, on va dire. Il faut sauver l'océan. Moi, j'ai répondu, pour le moment, c'est l'océan qui nous sauve. Hein ? Il nous sauve, l'océan. La machine climatique, juste quelques hein, vous avez, quand vous partiez avec un schéma de ce qui est en train de se passer. En 2020, l'humanité dans son ensemble a émis 43 milliards de tonnes de CO2. C'est pas un petit peu, hein. 43 milliards de tonnes de CO2. On n'a aucune idée de ce que c'est, mais c'est gentissime, vous l'avez compris. 45% reste dans l'atmosphère. 45% reste là. Et plus on en met, plus ça renforce l'effet de serre. Vous avez compris la serre, comment ça marche, du jardinier. Ça laisse passer le rayonnement et ça le piège. Donc plus il y a un rayonnement qui passe, plus il fait chaud. Ben, c'est ce qui se passe. Le gaz carbonique, donc vous avez entendu de ça, un gaz à effet de serre. On a eu l'impression tout le temps qu'on pouvait tout envoyer dans l'atmosphère, que ça partait dans le cosmos, vous voyez. En fait, ça ne va pas loin. Vous partez du centre de rotation de la Terre. Hein, du centre de rotation de la Terre, il fait chaud là. Vous faites 6500 km, vous arrivez à Brive. Le rayon de la Terre, c'est 6500 km. Vous arrivez à Brive. Les 10 derniers kilomètres, c'est ça la troposphère. C'est rien, voyez ce que je veux dire. C'est une enveloppe de cellophane autour d'une énorme citrouille. C'est que dalle. Et donc, on y en met. 45% reste là. 25% est réabsorbé à terre, sur les continents, à terre, par le vert, la chlorophylle. Le pigment de chlorophylle est le seul capable de recapturer le gaz carbonique que l'on envoie en excès. Vous avez peut-être entendu parler de la photosynthèse. C'est le privilège des plantes. Les plantes, elles ont ce privilège, si vous voulez, d'abord d'élire domicile où elles peuvent se développer. Ça, c'est, hein. Elles ont les pieds dans l'eau, enfin les racines dans l'eau, elles prennent les sels minéraux, la flotte. Sous l'action du soleil, elles captent le gaz carbonique qui est dans l'air. Elles en font du glucose, elles nous libèrent de l'oxygène. Ça, c'est la photosynthèse. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut arrêter de couper les forêts, mettre du vert partout, planter, vous voyez. Il faut du vert.
Végétaliser.
Pas que des écolos, des végétales. Des verts végétalisés. Il faut que ça capte le CO2. Il n'y a que la photosynthèse qui peut le faire. Ça, c'est à terre. 25%. Et 35%, c'est le rôle de l'océan qui joue un rôle essentiel. C'est pour ça que je disais merci l'océan. De deux manières. Ce qu'on appelle la pompe biologique, c'est un peu comme à terre, vous avez la photosynthèse qui capte. À mer, c'est pareil, elle n'est pas que bleue l'océan. Il est vert, il y a du phytoplancton, tu l'as évoqué. Le phytoplancton, c'est les herbes planctoniques, les petites algues qui se nourrissent avec le soleil. Et aussi l'autre action de l'océan, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la dissolution du CO2 dans l'eau de mer. Donc vous voyez, l'océan joue un rôle important. Bien sûr, il trinque. Parce que quand on le réchauffe, il se dilate. Et donc ça monte. Puis ça fait fondre les glaciers, etc., le réchauffement. Ça monte de 3,2 mm par an. Ce sont les satellites qui donnent ça, vous voyez. Une élévation moyenne, 3,2 mm par an. Parce qu'il se dilate et parce que la glace fond. Donc voilà les conséquences, si vous voulez. Mais comme ça, ça marche comme ça. Donc mettez du vert. C'est important pour limiter les émissions. Chacun est un acteur du réchauffement climatique dans sa vie et chacun peut être un acteur de la solution.
Jean-Louis et Étienne, en fait, ce qui est formidable avec vous trois, c'est que vous êtes d'une certaine manière, mais vous allez me le confirmer parce que je me trompe peut-être, vous êtes aussi optimiste en réalité. En tout cas, vous ne voulez pas vous laisser happer par le pessimisme.
On a conscience de la situation. On a l'intelligence des solutions. Il faut avoir l'audace et la sagesse de les mettre en œuvre, mais c'est immédiat. C'est immédiat, vous voyez, la Terre, elle a pris un degré. On a perdu un temps fou. Vous voyez, mois de juin à Brive, il caille le matin, par exemple, il y en a deux qui vont chercher la baguette de pain. Il y en a un qui dit à l'autre, et tu crois, ton réchauffement, on se caille, on est au mois de juin. L'autre va dire, oui, tu as peut-être raison, il nous raconte des garabistouilles. Et en fait, il ne parle que du temps qu'il fait. Vous voyez, la Terre s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. Personne n'est capable de percevoir un réchauffement moyen de 1 degré en un siècle. Elle a pris 1 degré, elle a 38, la Terre. Vous voyez ? Elle a pris 1 degré, c'est ça. Vous ramenez ça à la masse corporelle, c'est comme... Et à 38, on appelle ça une fébricule en médecine, une petite fièvre. Et si on... C'est une fièvre chronique, vous voyez ? Et si on ne s'en occupe pas, on va vers des catastrophes, on va vers des complications. On est là aujourd'hui. On est à l'aube des complications. Mais le traitement, il est à faire d'une manière urgente, mais c'est un gros, gros, gros travail. Et donc, ne vous découragez pas. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Et il y a du, et je le disais l'autre jour à la télévision, on me l'a dit, il y a du fun à être écolo. C'est une, il faut être un acteur de la transformation. Vous voyez, pendant la Covid, les Français ont économisé 55 milliards. Il n'y a pas le directeur de la Caisse d'épargne, là ? Non. Bon.
150 milliards.
150 milliards, qui dit mieux ? Bon, ça rapporte pas grand-chose à la Caisse d'épargne. Mais bon, c'est sûr, c'est là, et ils vous le rendront si vous en avez besoin, ça c'est sûr. Par contre, vous pouvez être un acteur, il y a un investissement à faire. Partout où il y a des toits, vous mettez des panneaux solaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec un onduleur, vous avez à faire de l'électricité, vous achetez une voiture électrique et vous faites le plein avec le soleil. Là, on devient un acteur, vous voyez ? Un investisseur et acteur, et il y a du fun.
Jean-Louis Etienne, c'est une merveilleuse conclusion parce que bon, voilà trois acteurs, trois auteurs de livres vraiment rares et captivants, vous l'avez compris.
Je voulais... C'est fini là ?
Ah oui.
Non, juste un truc.
Bien
alors,
sûr.
Parce que moi,
Et on pourra peut-être prendre une ou deux petites questions rapides.
Ah non.
Mais non, mais allez-y, non, Jean-Louis.
Oui, parce que ça m'intéresse d'être avec des romanciers, vous voyez ? Parce que le romancier, il a un talent pour décrire les choses. Moi, j'y passe un temps fou à revisiter l'émotion que j'ai eue. Peut-être vous n'avez pas vu ce que j'ai vu, mais dans votre art de décrire les choses, une photo, peut-être une information, et votre talent fait que tout d'un coup... C'est comme ça que j'ai appris à écrire avec Nicolas Bouvier, voyez. Et je vais lire, pas tout le roman, j'ai du mal à lire, moi je suis très dyslexique, je m'épuise, mais je suis intéressé par la description que vous allez faire des paysages que j'ai vus. Et je trouve que le romancier, il trouve le mot juste, la couleur du mot, le son, vous voyez. Moi, je rame pour les trouver.
Vous ramez, mais vous trouvez aussi.
De temps, oui, mais ça me demande un travail colossal par rapport à ce qu'ils font. Voilà, donc mais
eux aussi ont beaucoup travaillé, j'en suis sûr. On vous applaudit beaucoup et on vous retrouve sur vos stands. Et donc... On retrouve Wilfried Sondé sur le stand d'Actes Sud. Jean-Louis Etienne, L30, le stand. Mais vous allez retrouver tout ça sur le guide. Le livre de Jean-Louis Etienne, Explorateur d'océan, est publié chez Paulsen. Et le roman de Thomas Reverdy, Climax, chez Flammarion. L14 et L30. Et bien, merci à tous, merci de votre enthousiasme et de votre participation.